canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Sono solo canzonette.
Une émission sur la chanson italienne présentée par l'association Inis Italie Nord-Isère.
Par Jean Guichard et Alain Pongan.
Bonsoir Jean, bonsoir Laurent.
Bonsoir Alain, bonsoir Laurent.
Donc on reprend notre courant, nouvelle émission de la nouvelle saison, deuxième émission. Et qui, dans la dernière fois, on avait beaucoup parlé des cafés chantants et un petit peu des chiantose. On va peut-être continuer aujourd'hui sur ces chiantose au nom magique.
Oui, par exemple.
des noms, alors elles avaient des noms qui sonnaient souvent en français d'ailleurs, hein, puisqu'on l'avait dit, toutes ces chanteuses étaient d'inspiration, enfin le style de spectacle était d'inspiration française. Alors il y avait des françaises même qui s'étaient produites, comme Eugénie Fougère, mais il y avait aussi Lucie Nanon pour des, comme chanteuse oui. française, mmh. mais il y avait des italiennes qui prenaient aussi des noms français qui venaient chanter à Naples d'abord et puis après dans d'autres lieux, dans d'autres différents endroits de, d'Italie. Bon, sinon, les plus connus étaient Caroline Otero, Lucie Nanon, Émilienne d'Alençon, Cléo de Mérode, qui était fille d'un, qui était une Française, mais fille d'une baronne autrichienne, et des Carmen Marini, Esther Bijoux.
Esther Bijoux.
Esther Bijoux, hein, qui était, comme son nom l'indique, italienne. Voilà, enfin, plusieurs, et puis d'autres, bien d'autres encore.
Voilà. Carolina... Ah, Otero était espagnole.
Espagnole, voilà.
Et c'est alors, elle qui disait on gagne de l'argent, on gagne sa vie en dormant, mais pas en dormant seul.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire le parallèle ? Parce que dans les années où se situent tous ces spectacles avec les chanteuses, et inspirant, on le disait, de Paris, est-ce qu'on peut faire parallèle avec les fameuses cocottes parisiennes ou Amazon, ou scandaleuses, ils les appelaient aussi, c'est-à-dire les cercles parisiens fortunés aussi, où certaines se produisaient, qui se produisaient à Naples, hein, parce que Caroline Otero, Émilienne d'Alençon, Cléo de Mérode,
Yvonne de Fleuriel.
Et voilà, se produisaient dans les deux capitales. Et ces cocottes, ben c'est pareil, hein, elles étaient dans ces cercles où l'argent coulait à flot, on va dire, le luxe, le plaisir, l'extravagance, et où elles avaient, on inventait des tas d'histoires autour d'elles, vraies elles ou pas, mais même quand elles étaient interviewées, j'ai écouté récemment une ancienne interview de Caroline Otero, où visiblement ce qu'elle racontait m'avait l'air un petit peu extravagant et pas tout à fait proche de la vérité. Elle s'était inventé visiblement un amant russe.
Suis pas sûr qu'elle l'avait inventé.
Alors, ou au moins exagéré dans la mémoire, je sais pas. Enfin, alors visiblement, on disait qu'elles avaient beaucoup de commerce avec les hommes, mais qu'elles n'aimaient pas spécialement les hommes, en fait.
C'était. Ouais, y en a qui étaient bisexuels. Bisexuels, hein, ouvertement. Mais oui, il y a un parallélisme très fort avec ce qui se passait. Paris était la grande ville européenne à ce
capitale
moment-là.
Capitale des plaisirs, c'était, on l'appelait.
Oui, ouais, ouais. Mais il suffit de lire, par exemple, Colette, l'écrivain français Colette, sur ce qu'elle raconte. Elle a participé à ces milieux. Elle y a joué, elle a fait du mime, elle a fait de la danse nue, elle a fait... Et ce qu'elle raconte, parce qu'elle connaissait très bien un certain nombre de ces chanteuses, ces chanteuses et napolitaines qui venaient à Paris quand les plus grandes étaient écoutées beaucoup à Paris et puis à Malte. Il y avait,
et pourquoi Malte ?
Parce qu'il y avait énormément de locaux de ce genre.
Ah ouais, d'accord.
Alors c'était plus des anglo-saxons que des...
Oui, pour la langue au départ.
Que des Français. Mais il y en a beaucoup qui ont beaucoup chanté à Paris et à Malte. Ce qui suppose que Malte était équipé en café chantant, en lieu de ce genre. Mais il y a vraiment, à cette époque, une, une libération des mœurs dans ces milieux aristocratiques, dans ces milieux libérés, aristocratiques ou bourgeois. On se dégage de, des morales, de la morale dominante et on veut vivre, quoi. Il y a aussi, c'est aussi une belle époque, c'est aussi une période qui est heureuse. Alors, il y aura l'interruption de la guerre de 14. Et puis après, il y a une reprise, en France en tout cas, en Italie moins, parce que c'est le fascisme, à partir de 22.
Oui, à partir de 22.
Mais c'est extraordinaire, les modes de vie que l'on raconte pour ces femmes. Yvonne de Fleuriel, par exemple.
C'était des femmes de caractère, souvent.
C'était des femmes. Et puis, elle commençait très jeune. Anna Fuggetz a commencé, elle avait 6 ans. À 9 ans, elle était déjà célèbre. Ouais. Et elle passait dans les théâtres. On la demandait partout. Elle était de Tarente, elle aussi. C'était pas tout à fait une napolitaine, mais... Et on l'a bientôt fait jouer à l'Alhambra. On l'a bientôt donc fait jouer à Paris. Elle était amie de Mistinguette, par exemple. Et c'est vraiment la déesse du varietà, quoi. Et puis, elle avait une vie très... très, très libre. Elle s'était mariée plusieurs fois. Elle était connue partout. Esther Bijoux, c'est pareil. Quand on lit la vie d'Esther Bijoux, qui commence aussi très, très jeune.
Et qui est décédée très jeune.
Elle s'est suicidée, apparemment. Enfin, on l'a trouvée avec un coup de revolver dans la tête, dans son hôtel.
Elle l'a peut-être aidée à se suicider.
On ne sait pas. On dit qu'elle s'est suicidée. Elle était née en 83, elle est morte en 1912.
Oui, c'est ça.
Elle
n'avait pas 30 ans.
Non, 29 ans. Et c'était celle qu'on appelait le petit diable blond. On dit qu'elle s'était suicidée par désespoir d'amour pour l'abandon de son amant, qui était un aristocrate napolitain, le prince de Fondi, qu'il avait quitté. Lina Cavalieri, elle, était romaine.
Mais elle aussi passait souvent à Paris,
oui,
Lina Cavalieri.
Bien sûr, elle était considérée comme la plus belle femme du monde. Des femmes comme Émilienne d'Alençon, par exemple, qui était lancée dans le demi-monde par un grand personnage, un noble qu'on appelait l'intrépide vide-bouteille, par ailleurs. Donc,
c'est elle qui portait les chapeaux qui ont un peu lancé Coco Chanel.
Oui, voilà. Il y avait un milieu extraordinaire. Et il faut bien voir le parallélisme entre Naples et Paris, parce que c'est Naples qui est à la source de beaucoup de ces initiatives. Les cafés chantants commencent là, les chantos, c'est un mot qui est inventé à Naples, et beaucoup viennent du sud de Naples, ou de plus loin, plus au sud. Et alors, l'autre fait marquant, c'est que avec l'urbanisation et le développement de cette chanson urbaine, qui n'existait que très peu avant, ou alors il y avait des chansons d'artisans, mais il n'y avait pas de spectacle de ce type, la chanson se commercialise. C'est plus du tout la chanson qui était chantée dans les villages, où les gens, ils chantaient entre eux, ils chantaient eux-mêmes, ils chantaient pour eux. Non, là, la chanson devient un spectacle. On paye pour entrer au spectacle. Et qu'est-ce qu'on offre par ces spectacles? Non pas du pain et des jeux, mais du sexe et des jeux. On chante essentiellement des chansons d'amour. Tout ce qui est chanson
est écarté,
satire politique, ou trop satirique. Ou alors on fait, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui à la télévision. On passe des satires politiques qui critiquent tout le monde. Comme ça, on ne prend pas parti. Vraiment ceux dont on pense que la majorité du public va les critiquer. On écoutera aujourd'hui ou la prochaine fois une chanson qui s'appelle « Il collettivista » de Maldacea, une maquetta. c'était les socialistes, c'était une critique des socialistes qui était tellement violente que les socialistes vont la faire interdire parce que c'était insupportable. Mais c'était ça aussi le café chantant. C'était, on divertissait le public. Il n'y avait plus d'unité dans les villes. Les gens, ils n'étaient plus là entre eux pour chanter, se divertir. Donc, ils allaient au spectacle. Et ça sera la même chose pour le théâtre de variété, et le tabarin, et, etc. Le tabarin, ouais. Alors, on peut écouter une première chanson bien significative de chanteuse. Une chanteuse qui était qui a été très connue, c'était Maria Campi.
Ah, oui.
Maria Campi, qui était une napolitaine. Et c'était elle qui avait inventé sur scène...
Le fameux mouvement, non ?
Voilà, le mouvement des hanches qu'on appelait la morsa. Elle faisait
une sorte de danse du ventre.
Un mouvement des... Oui, ouais. Alors ça faisait bouger le
coup de ventre.
Le derrière, voilà. Les seins, etc. Et alors le public était, il était là à tirer la langue. Alors voilà par exemple une chanson de 1910 qui s'appelle « La plus belle du village ». Quand revient le mois de mai avec ses fleurs charmantes, quand les vieux amours recommencent à fleurir, tout le monde dans mon village, sur la verte plaine, vient de loin pour voir moi. À cause de ma bonté si forte, tralala, personne ne me laisse une heure en paix, tralala, tout le monde dit, ah, comme elle est charmante, la Mimi, la plus belle du village, tralala. Etc. Quand je vois un homme, le regard mort, faire l'amoureux transi, pencher devant moi, moi qui sais de son cœur les voix secrètes, tralala, que d'oiseaux je prends dans mon filet. Oui, toujours, et quand elle dit quanti uccelli.
Toujours à double sens.
Toujours à double sens. Mm-hmm. Comme le papillon, je suis libre, tout le monde est à moi, je rêve et je fais rêver, j'aime. Rire et plaisanter avec chacun, mais je ne donne à personne ma liberté. On sait, il faut être maligne pour faire l'amour, tralala. Qui ne sait pas nager se noie et meurt, tralala. Tout le monde dit comme ça. Mais celle qui arrive, c'est la Mimi, la plus scaltra, la plus audacieuse du village, tralala. Voilà, on va écouter cette chanson, la plus belle du village.
Forma del villaggio, la. E più che sta del
Voilà, et alors c'est pas un très bon enregistrement parce qu'il est 1910.
Il est d'origine.
Et puis il est enregistré sur le vif, quoi. Mm-hmm. Et comme on a entendu, le public
reprend,
participe. Mm-hmm. Et la chanson est faite pour ça, mm-hmm. pour intégrer mm-hmm. le public dans le spectacle. Et de plus en plus, on en a des exemples dans des films de Fellini, des exemples de théâtre de variété un peu plus tard. Mm-hmm. On voit un public qui est complètement pris par. Et le problème, c'est que souvent, et de plus en plus, ça deviendra aussi un public populaire, et que le café chantant a une fonction d'intégration sociale, d'élimination des conflits sociaux, on les oublie.
Normalisation.
On normalise, etc. Tout devient normal avec le café chantant.
C'est une mondialisation avant l'heure.
Mais. C'est extraordinaire, parce que si on regarde la télévision aujourd'hui, c'est souvent ça, pas toujours, mais souvent.
Ah oh bah quand même.
Les émissions de variété. Les émissions de variété.
C'est ça même.
Oui. Pas toute la télévision, il y a d'autres choses.
Non, mais comme par hasard très tard ou à des heures.
Oui, les chaînes publiques, les émissions de variété, c'est ça. Et j'allais dire c'est triste, mais...
Non, mais c'est tout à fait vrai.
Alors écoutons une autre chanson du même type, c'est l'Ingenua, l'ingénu, de deux auteurs qui ont un peu disparu, Mirelli et Albin. Et elle est interprétée par une autre chantosa, c'est Nella Vandea. Ma maman dit toujours, Gigina, maintenant tu es grande, tu n'es plus petite, tu es charmante, t'es plutôt gentille, et tu ferais une brave petite épouse. Je ne nie pas que quand elle le dit, je me sens plus joyeuse et heureuse. Je pense à Gino, qui dans sa petite maison, un beau jour, m'enlaça mes bas. Il fit vite à me les tirer. J'espérais qu'il ferait plus. Quelle jolie... Et alors ça continue... Quelles jolies jambettes j'ai, quels petits pieds. Je vous assure que j'ai tout petit, les oreilles, la bouche, un petit nez. Et le reste, Gigino peut le dire. Je ne nie pas que quand il le dit, je me sens plus joyeuse et heureuse. Quand il est plein de goût, un beau jour, il m'a enlacé tout le buste. Je n'oublie jamais quelle chaleur. J'eus un bain de véritable sueur. Et l'autre jour, caché dans la cave, on faisait une chose tout à fait charmante. Je jouais la brave petite maman. Lui, il faisait ma petite fille. Je ne vous cache pas que quand j'y pense, tous mes sens se secouent vraiment. Je pense à ce fourbe qui avait caché un objet qu'il m'a montré après. Mais je ne peux pas bien vous l'expliquer, c'est une chose que je n'ai pas. Alors, bon, voilà, c'est significatif. Et on voit évidemment que c'est pour exciter le public, qui est très excité, parce qu'il imagine. Et puis la chanteuse est habillée de façon très légère, des jupes courtes, un très très grand décolleté. Elle en joue beaucoup. Et voilà, il y a toujours aussi chez beaucoup l'espoir que après le spectacle, on pourra finir la nuit avec elle, quoi. Et bon, ça arrive. L'ingénue, 1910, Nella Vandea.
Thank you. brava mammina, lui faceva la mia piccina. Non vi nego che quando lo penso, mi si scuote davvero ogni senso. Penso il furbo che aveva celato, un oggetto che poi m'ha mostrato. Ma spiegarvelo bene non so, è una cosa che io non ce l'ho.
La marque du diminutif en italien donne encore plus de saveur au texte.
Oui, et puis il y a la reprise de choses qui mythologiquement étaient importantes. Le petit pied, par exemple. Oui. Le petit pied était, depuis la Chine ancienne, un objet érotique. C'est pour ça que Cendrillon a un petit pied, d'ailleurs. Mais ça, on n'est plus bien sensible à ça.
Oh, il paraît qu'il y a un homme politique qui est très sensible
au pied. Au petit pied ?
Oui, oui.
Ah bon ?
L'année passée, il y avait eu quelques soucis.
Ah bon ?
Oui, oui.
Voilà.
Je ne sais pas s'il a lu Cendrillon.
C'est aussi. Oui. Une autre chanson de Nel Lavandea, d'un auteur plus connu, c'était Libero, avec une musique de Perpignan. C'est Il cestino rotto, le petit panier, le petit panier cassé. Alors elle raconte qu'elle allait au marché acheter le fromage de sa maman et les œufs frais de son papa, et elle chantait une chanson quand voilà un impertinent qui lui dit « Ton petit visage est très beau, mais ton petit panier est encore plus beau, laisse que je le voie au moins, que je voie au moins ce qu'il contient. » Alors elle lui dit « Si vous le touchez, je le dirai à ma maman et à mon papa. » Mais lui, feignant de ne pas comprendre, allongea la main et recommença à dire « Comme il est beau ton petit panier, héroux, héroux !» Et il le prit, l'assassin, de telle façon que d'un coup il le cassa, il renversa les œufs et je restais pour ce vilain avec seulement mon fromage dans la main. Qu'est-ce que je dois dire à mon papa? Qu'est-ce que je vais raconter à ma maman? Qui de vous peut me donner un conseil? En compensation, je peux lui faire cadeau d'un fromage. Je tiens tout mon panier cassé. Des œufs, il ne me reste que l'omelette. Je ne sais vraiment pas comment faire. Je ne sais pas comment remédier. Il m'a cassé mon petit panier. Ah, cruel destin. Voilà, le petit panier cassé. 1900.
Quel figlio!
li posso regalare. Sento tutta la mia testa rovinata, delle uova sol mi resta raffrittata. Non so proprio come fa, non so come rimediare.
On disait chanteuse, mais dans le Piémont, ils les appelaient chanteuses, comme en français.
En français, oui.
Vu le dialecte oui. piémontais.
Oui, oui. Voilà, il ne faut pas mettre la main
au panier.
Comme on dit. Et ainsi de suite, on peut écouter encore cette chanson par Yvonne de Fleuriel. Vous avez remarqué dans cette chanson, il y a beaucoup, il y a un usage systématique des mots tronchi.
Ouais,
alors on ne dit pas mattino, on dit mattine, on ne dit pas cestino, on dit cestine, on dit mamma, papa, etc. Et ça, c'est typique de l'usage que fera la chanson du vocabulaire. Alors la chanson qui est chantée par Yvonne de Fleuriel est de 1908, elle est de Mattiello, qui était un auteur plus connu, et elle s'appelle « Nini ».
Ah ben celle-là, oui.
Nini. Mais que veulent de moi tous ces gens qui s'arrêtent en sentinelle autour de moi, qui fait un soupir et qui me dit que je suis belle, qui m'envoie une quantité d'ingénuité par les rues de la ville, j'entends dire de ci, de là, « Ah, quel visage, regarde, quel beau visage !» Tous en cœur me disent comme ça, « Oh, quel visage est là, Nini !» Tous en cœur, etc. Et je le sais bien que je suis belle, mais je m'intéresse à l'essentiel et je recherche seulement quelqu'un qui ait des grosses pièces en quantité. Et pour ça, je cherche de l'argent. Je suis belle, je le sais. Ah, quelle bouche, heureux celui qui la touche. Tous en cœur me disent-ils, quelle bouche elle a, Nini. Tous en cœur me disent-ils, quelle belle bouche. Et si je vais alentour pour faire mes courses, qu'est-ce que je porte ? Ce que je porte, chacun veut savoir, et tout le monde touche le panier.
On revient au panier.
Oui, en profitant de ma bonté. Mmh. Ah, quand je descends à la ville, j'entends dire de là, de ci, de là, quel panier il est vraiment à voir. Tous en cœur me disent comme ça, ah, quel panier est là, Nini, tous en cœur me disent comme ça, quel beau panier.
Panier étant l'arrière-train, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Où il ne faut pas mettre la main. Sinon, si on casse le panier, que vont dire le papa et la maman ?
Il restera que le fromage.
Non, elle n'aura plus que le fromage dans la main. Allez, on écoute Nini, 1908, Yvonne de Fleuriel.
Ma cosa vuol da me tutta sta gente? Che intorno a me si ferma in sentinella, chi fa un sospiro, chi mi chiama bella, chi dice sei graziosa in verità, per le vie della città sento dirti qua e di là. Ah, che faccia, guarda che bella faccia, tutti in coro mi dicano così, che faccia che tiene Nini, tutti in coro mi dicano così, che bella faccia. Già che sono bella, ma mi interesso dell'essenziale e vado in cerca solo di quel sale che se biglietti grossi in quantità, che son bella lo so già, ma perciò io ti affargia. Ah, che tocca, io tocchi la tocca, tutti in coro mi dicono così, che bocca che tiene Nini, tutti in coro mi dicono così, ma che bella bocca. E se vado in giro un po' per far la spesa, che cosa porto ognuno vuol sapere, e tutti quanti toccano il paniere, approfittando della mia bontà.
da vedere, tutti in coro mi dica così, che paniere che tiene Ninni, tutti in coro mi dica così, che bel paniere.
Voilà, Ninni, quel beau panier.
Est-ce qu'il y avait des dans les cafés chantants du Nord et du Sud, est-ce qu'il y a des différences de programmation?
Non,
ou non,
hein non, non parce pas. Que de plus, c'est en fait c'est les Napolitains.
Oui, oui, c'est pour ça que c'est ça, comme ils l'avaient créé. Bon, eux, est-ce que le Nord l'a accommodé à sa sauce ou
non? Pas spécialement. Non, c'était des chansons qui prenaient une diffusion nationale. Et c'est intéressant parce que c'est aussi un facteur d'unité nationale.
Mais oui, bien sûr.
Vous voyez, là, les chanteuses, elles ne chantent pas en napolitain.
Ah non, elles chantent en italien.
Elles chantent en italien parce que ça s'exporte, l'italien. Ça s'exporte à Milan, à Turin, ça s'exporte à Bologne, à Gênes, etc., à Tosca, à Florence, etc. Et puis alors, il y a un goût qui se développe, que plus tard le fascisme développera. C'est évidemment le goût des femmes étrangères. Parce que c'est un peu ennuyeux de parler de façon légère des femmes italiennes. Les femmes italiennes, c'est quand même de bonnes mamans qui sont arrivées...
au niveau de la représentation.
Vierges au mariage. Et qui ont eu ensuite des enfants avec leur mari et rien qu'avec leur mari. Tandis que les femmes étrangères... Par définition, elles ne sont pas comme ça.
Elles n'ont pas la même culture. Donc
elles n'ont pas la même culture. Et voilà. Et alors, on va voir abonder les chansons où on évoque des femmes du monde entier qui sont amoureuses de qui ? D'Italiens.
Ah ben bien sûr.
D'Italiens qui parcourent le monde entier. Et on utilisera ça même pour les conquêtes coloniales. La conquête de l'Abyssinie par le fascisme se fera au nom... de la belle abyssinienne qu'on va libérer des tyrans qui la torturent et qui se servent d'elle. On va l'amener à Rome et on lui fera voir le Duce et on lui mettra une chemise noire. Alors voilà un exemple. La Spagnola, c'est un texte et une musique de Vincenzo Di Chiara, qui était un auteur connu, chanté par Anita Di Landa, une autre chanteuse, qui dit « De l'Espagne, je suis la belle, je suis maîtresse d'amour, tous me disent étoile, étoile d'une vive splendeur. Serrée, serrée dans l'extase d'amour, l'Espagnol sait aimer comme ça, bouche à bouche, la nuit et le jour. J'aime avec toute l'ardeur de qui est sincère avec moi, de mes années... La vigueur, je lui fais bien vite voir. Stretti, stretti nell'estasi d'amor, la spagnola sa amar così, bocca a bocca, la notte. Et il dit. Voilà, c'est une espagnole. Alors, bon.
La morale est sauve.
La morale est sauve pour les italiennes. La spagnola, 1906.
Bye.
la ponctuation avec les grosses cymbales, là, c'est quelque chose.
Ah oui, oui. Et Anita Dilland a illustré tout ça par les mouvements de tout son corps, bouche à bouche, la nuit et le jour. Et c'était un spectacle...
C'est un spectacle.
Ah oui, c'était un spectacle extraordinaire pour les gens. Ils n'ont pas, en plus, pas habitués à ça. Nous, on est un peu rodés maintenant. On a vécu je ne sais combien de libérations sexuelles. Mais à l'époque, 1906, ouais, c'est quand
c'est
même...
C'est plus d'un siècle, en fait.
Ah oui, c'est quand même nouveau. Ouais. Et puis, il faudrait voir, on ne peut pas les montrer ici, les affiches...
Ah, magnifiques.
Qui...
Elles sont magnifiques, les affiches.
Ah oui, affiches qui appelaient à ces spectacles, à ces soirées de café chantant. Elles sont très, très belles, souvent en style Art Nouveau, en style Liberty. Et
il faudrait qu'on en mette quelques-unes, d'ailleurs, sur le site, comme ça les auditeurs peuvent
On pourrait en produire quelques-unes. Et évidemment, elles appellent à un certain type de spectacle, à un certain type de comportement du public aussi. Il se dit, miam, 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 si c'est ça que je vais voir, c'est quand même quelque chose. Et donc, il y a vraiment une organisation du Café Chantant qui, dans les villes, dans les grandes villes de l'époque, et qui va accentuer le contraste entre la chanson traditionnelle, paysanne, et puis la chanson des villes. Non pas que la paysannerie soit exempte de sensualité et de sexualité, pas du tout, au contraire. Il y a quand on écoute les chansons napolitaines, paysannes, qui se chantent pendant les processions à la Vierge, on y raconte, y compris des accouplements dans les champs de tomates, quoi.
Tout à fait.
Parce que c'est plus fécond, probablement, de s'accoupler dans un champ de tomates. La nature va aider la fécondité du geste. Alors, écoutons une dernière chanson, mais on pourrait en écouter des centaines comme ça. C'est Algerina, algérienne. Elle est de 1910, de Chiaro e Lanza. Et c'est à nouveau Maria Campi, celle qui avait inventé la morsa.
La morsa.
Elle s'est restée célèbre, la morsa.
Ah, ouais.
Et Maria Campi a été connue partout pour sa morsa. Et au bout d'un moment, le public demandait oh, « La morsa, la morsa
!» Mais ça doit être... cette attitude physique aussi lui a servi, parce que c'est une personne qui, elle, est décédée assez âgée. Donc, comme quoi, le coup de ventre est utile
à
la condition physique.
Publicitairement utile. Alors, l'Algérina dit « Depuis 3 ans, j'ai laissé ma maison, là où je suis né. Je vivais de façon malheureuse en repassant des chemises. J'ai tourné l'Europe et la France. Finalement, je me suis arrêté. Maintenant, je veux jouir de la vie avec beaucoup de joie et de plaisir. Et si un jour, je me réveillais avec des cales, si autrefois, plutôt, je me réveillais avec des mains calleuses, maintenant, je possède des carrosses et des chevaux, alli, alli, et en suivant le mouvement du monde... Et alors, elle répète les dernières syllabes du mot « cavalli, alli, alli, andazzo, azzo, azzo ». Je m'amuse et je prends du plaisir. Je bénis l'Algérie qui fut ma fortune, la fortuna mia, alla, 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 alla. Je sais jouer de quelque instrument et à chaque moment, danser la danse du ventre de façon exemplaire. Un soir, dans un jardin touffu, je fus surprise avec un petit monsieur en train de lui montrer avec beaucoup de bonté, au clair de lune, je jouais du... point de suspension. Je fus obligé de fuir avec mon ami, con l'amico, ico, ico, et ayant découvert qu'il fut mon tout cool, oul, oul, cool... Et ayant découvert, on m'emporta, nel caracoul, cool, cool, oh bienheureuse l'Algérie, je bénis l'Algérie qui fit ma fortune, la fortuna mia, alla, 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 alla. C'était une certaine Algérie.
Thank you. carro.
Orbo secco, carasse, caralle.
Carro, carro.
E quando del mondo l'andasse.
Carro, carro.
Mi diverto e mi piglia soldato.
Carro, carro.
O bene di volare seria, se con la fortuna mia.
Alla, 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 alla.
Voilà pour
mais, les... mais est-ce que ces cafés chantants n'étaient pas exclusivement réservés aux dames
Ah non.
Bien d'accord.
On y allait éventuellement avec une dame, si on en avait une à inviter, en se disant que le spectacle allait exciter suffisamment la dame pour qu'éventuellement on puisse finir la nuit avec elle. Mais il y en avait aussi qui y allaient seules dans l'espoir de séduire la chanteuse.
Oui, quand je dis aux dames, je me comprenais. Ah oui. Il n'y avait pas que des messieurs dans la salle pour voir des dames.
Ah non, quoi, voilà. non, il y avait aussi des dames. On venait et souvent... petit à petit, les gens du peuple qui ne sont pas très riches font des économies et le samedi, ils emmènent leurs fiancés au spectacle parce que c'est
pour comprendre le message.
Éventuellement, pour faire comprendre le message, etc. Donc voilà, tout un aspect de cette vie musicale des chansons de ville entre 1880 et 1922, je dirais.
Ouais, juste en... À fin de la Première Guerre mondiale.
Et puis, dans cette période aussi, il faut dire, et on en reparlera, on continuera à en parler la prochaine fois, qu'il y a eu quelques grands chanteurs qui sont non seulement des interprètes souvent, mais souvent des créateurs. Alors, on va en voir un premier, c'est Gennaro Pasquariello. Pasquariello est évidemment napolitain.
C'est qui faisait des maquettes.
Oui. C'est ça. Oui, c'est plutôt Baldacchea qui faisait des maquettes. Mais Pasquariello donc, était né à Naples en 1869. Il a été actif jusqu'en 1950. En 1950, donc il a repris une activité après la guerre parce que c'était vraiment... Un grand de la chanson qui était demandé partout. Ce qui est significatif, c'est que c'était un fils d'artisan. Et c'était très souvent l'origine des chanteuses. Elles étaient d'origine populaire, souvent. Et ça faisait une partie de leur charme parce qu'elles avaient assimilé un peu les comportements, les méthodes aussi de la chanson populaire de quartier. Et lui, il avait travaillé au début dans la boutique de son père. Et puis, il avait toujours eu, de même que son père, l'amour du théâtre et du chant. Et puis,
c'est lui qui chantait avec plusieurs costumes, on va dire. C'était la voix du transformisme,
alors,
en fait.
Oui, alors ça, c'était... On en reparlera à propos de Fregoli, qui était dans l'Europe entière, l'artisan du transformisme. Il changeait des dizaines de fois de costumes dans la soirée.
Il inspirait beaucoup, d'ailleurs, Arturo Brachetti, le transformisme actuel turinois.
Ah, mais Fregoli...
Il y fait souvent référence.
Bien sûr, c'est un classique. Alors, voilà, un premier chanteur, Gennaro Pasquariello. Il avait lancé sa propre compagnie, d'ailleurs. Et c'était le moment où on diffusait les chansons, le texte et un petit peu de partition dans des feuilles volantes, ce qu'on appelait les copielle, à Naples. Et il y avait des éditeurs, il y a eu de grands éditeurs de musique à Naples. Ça a commencé à Venise au XVIe siècle, mais Naples s'y était mise. Et aussi, il chantait souvent au Salone Margherita. Il avait participé à l'inauguration, d'ailleurs.
Qui était le premier café chantant.
Premier grand café chantant de Naples, oui, absolument. Et il avait travaillé avec Elvira Donnarumma, qui fut aussi une des grandes de la chanson napolitaine. Et puis, bon, il s'est marié très tard, en 1932. Il a eu 4 enfants de sa nouvelle épouse. Et il a continué à écrire des chansons, à participer à la fête de Piedigrotta à Naples. Et puis il est mort d'un accident cérébral en 1959, entouré de ses enfants célèbres, etc. Alors on va écouter une première chanson, une chanson de Pasquariello. C'est Mare Chiare. C'est une grande chanson. Le texte est de Salvatore Di Giacomo et la musique de Tosti.
Tosti, oui. On en avait déjà parlé la dernière fois.
Oui. Elle est de 1895 et elle est en napolitain. Quand la lune pointe à Mare Chiaro, même les poissons font l'amour. Les vagues de la mer se retournent de joie. Elles changent de couleur. Quand pointe la lune à Mare Chiaro il y a une fenêtre, ma passion y bat des ailes, un œillet émane son parfum dans un vase, l'eau passe dessous avec un murmure. Alors ça, c'est la fameuse fenêtre que tout le monde montre à Mare Chiaro, qui est près de Naples, et qui n'existait pas en 1885.
Mais qu'on a inventé pour la beauté de l'histoire.
Pour la beauté de la chanson.
C'est bien.
Qui dit que les étoiles brillent ne connaît pas celle que tu as sur le front. Ces deux étoiles, je les connais. Il n'y a que moi qui les connais. Dans mon cœur, je conserve leur pointe. Réveille-toi, Caroline, car l'air est doux. Quando mai ho aspettato tutto questo tempo, combien j'ai attendu tout ce temps pour accompagner la musique de ma voix ce soir, j'ai apporté une guitare. Réveille-toi, Caroline, car l'air est doux. Allez, réveille-toi, Caroline.
L'air est doux.
Mare Chiare de Salvatore Di Giacomo Tosti, chanté par Gennaro Pasquariello, 1885.
Sarà vota dall'ombra lumana quella pietra che agna la furora quando sfonda la luna a Mare Chiara. A Mare Chiara già sta la foresta, la passione mia si tutturea. Nucarò farà d'ora in dalla testa, faccio l'acqua per sotto e murmurea. A Mare Chiara che sarà paraggia. Ah, Amaro Chiara, sta la parata. Caristella sol lucente, un sapo scocchiacato di era un fronda. E gioia stella, gli stati sulla mente, tinta lucara la tenga di fonda. Chi dice Caristella sol lucente? Da Carli, Callaria e Socia, quando mai tanto ti rimba già spazzata, fa accompagnare il suono con la voce, da sera la chitarra giurata. Da Carli, Callaria e Socia. Ah, all'aria è dolce, accedata dall'aria è dolce.
Voilà, c'est un des grands classiques de la chanson napolitaine, Mari Chiara. Tout le monde la connaît encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui.
Oh, elle est toujours chantée aujourd'hui. Et elle est de 1885. On va écouter pour finir une deuxième chanson chantée par Pasquariello. C'est d'un tout autre genre, c'est Fili d'oro. Oui. Fil d'or. Alors, elle est de 1912. Il y a eu à partir de cette période l'idée qu'il fallait exploiter la vie campagnarde. Qu'on était en ville, mais les paysans...
Il fallait en parler,
ça représentait quand même 80% de la population, c'est eux qui nous nourrissaient. Et alors on va écrire d'extraordinaires histoires paysannes comme celle-ci. Le texte est de Giovanni Capurro.
Et en italien cette fois.
Et en italien, bien sûr, parce qu'on ne va pas parler le dialecte des paysans. Alors c'est l'histoire de Rose. Quand Rose revient du village, toute seule, triste sur son visage, je la suis, mais je n'ai pas le courage de la prier, de m'écouter. Douce est le soir, bien loin, et la route, si on la faisait ensemble, elle serait moins longue. Bien longue est la route, si on la faisait ensemble, elle serait moins longue. Ses cheveux blonds sont des fils d'or, et sa petite bouche sent bon. Oui. Ses yeux sont beaux, sont noirs et profonds, elle ne me regarde pas encore. J'ai parlé à notre bon curé.
Qu'est-ce qu'il a dit, le curé?
Qui m'a dit, mon fils, si l'amour en toi n'est pas un péché, ton désir sera apaisé. Mon cœur brûle, mais ma flamme est pure. Je n'aime qu'elle, la maison et la maman. Ses cheveux sont des fils d'or, etc. Et je l'ai vu sortir de la petite église avec un air de mystère. Et je lui ai tendu l'eau bénite. Elle m'a souri et ça ne paraît pas vrai. Quel bon curé, m'a-t-elle dit en passant. Et moi, je lui ai demandé, mais quand ? Ses cheveux, etc. Et ensemble, en allant, nous avons rêvé sur la route, nous avons rêvé une petite tête d'or, tandis que je la serre, elle murmure, je t'aime, et je réponds, moi je meurs.
C'est beau, hein?
Alors c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire, parce que c'est vraiment l'apologie de la famille.
Oui.
On n'attend qu'une chose dans la famille, c'est la petite tête d'or,
un enfant, le
petit garçon blond. Et on n'ose pas quand même dire à une fille qu'on aimerait bien. Alors, on s'adresse au curé, quoi. C'est une extraordinaire histoire d'amour. Et Fili d'oro est un grand classique de la chanson italienne. Encore aujourd'hui, elle est connue. Ah, on a juste le temps de l'écouter.
Sur un texte de Capurro.
Oui.
Quando Rosa torna dal villaggio, sola sola e mesta in volto, io la seguo ma non ho coraggio di pregarla a darmi ascolto. Dolce la sera, ben lunga è la via, a farla insieme ben lunga saria. Son fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia odora, gli occhi suoi belli sono neri e fondi e non mi guarda ancora. Ho parlato al nostro buon curato e m'ha detto: figliolo mio, se l'amore in te non è peccato, sarà pago il tuo desio. Arde il mio cuore, ma pure la fiamma, amo lei sola, la casa e la mamma. Son fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia odora, gli occhi suoi belli sono neri e fondi e non mi guarda ancora. E l'ho vista uscire dalla chiesetta con un'aria di mistero, io le ho portato l'acqua benedetta, ma sorriso e non par vero. Che buon curato m'ha detto passando, ed io le ho chiesto: ma quando, ma quando? Son fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia d'ora, gli occhi suoi belli sono più profondi or che mi guarda ancora. Stringo, lei sussurra t'amo, ed io rispondo: io moro.
Alors, au revoir à tous.
Bonsoir.
Et on se revoit dans un mois pour la suite des grands chanteurs de cette époque.
Absolument.
Sono solo canzonette.
Une émission sur la chanson italienne présentée par l'association Inis Italie Nord-Isère
par Jean Guichard et Alain Pongan.